Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera ce week-end. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On arrive déjà à libérer 20% de places de réanimation. Ça serait un véritable soulagement, une véritable bouffée d'oxygène pour nos réanimations.
L'Île-de-France au bord de l'asphyxie. 4000 malades du Covid sont ce soir en réanimation, dont un quart en région parisienne. On approche du seuil critique. Des dizaines, voire des centaines de patients vont être transférés dans les tout prochains jours. La série noire continue pour AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments reconnaît que le sérum peut entraîner quelques cas d'allergie sévère. Pas de quoi s'affoler. C'est le lot de tous les vaccins, répondent les spécialistes. 12 mars 2020, 12 mars 2021, le quoi qu'il en coûte à un an. Mais il ne fêtera pas un deuxième anniversaire, le gouvernement ne veut plus d'une économie sous perfusion et il s'y prépare. Dans ce journal également, Gérald Darmanin confronté pour la première fois à la femme qu'il accuse de viol. La 46e cérémonie des Césars, c'est en ce moment. Tout comme le foot, Reims-Lyon, Damien Ardoit.
Et la surprise, Reims mène 1-0 à la pause, le but de Mathieu Cafaro à la demi-heure de jeu.
Merci Damien et à tout de suite. La météo, elle sera très agitée demain avec une perturbation pluvieuse et venteuse qui va balayer tout le pays, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle termine la semaine dans le vert et se maintient au-dessus de la barre des 6000 points, plus 0,21% à la clôture ce soir. On en parlera avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les grands patrons au niveau mondial sont très confiants pour cette année. C'est ce que révèle une étude de PwC, l'un des plus grands cabinets de conseil au monde. Son président pour la France et le Maghreb, Bernard Guénier, sera l'invité d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un funambule qui titube sur un fil, voilà comment on pourrait imager la situation sanitaire en Île-de-France. Ça passe ou ça casse, et encore une fois, le gouvernement s'en remet à la résilience des soignants face à la hausse continue des patients Covid en réanimation. On en compte près de 1100 ce soir et ça va continuer à monter. Voilà pourquoi les autorités se préparent à transférer des malades, Victor Delande.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les prochains jours, la région Île-de-France va dépasser le seuil du nombre de patients en réanimation qu'elle avait enregistrée lors du pic de la deuxième vague, c'était en novembre dernier. Entre les entrées et les sorties, la région francilienne doit prendre en charge 20 patients supplémentaires chaque jour minimum. 40% des opérations non urgentes ont été déprogrammées. Il faut faire davantage de place pour soulager les hôpitaux. La solution, c'est donc les évacuations. Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, explique comment ça va se passer.
Le moyen aérien, c'est l'hélicoptère, des avions. Et on a utilisé, lors de la première vague, un moyen original, mais qui a été couronné de succès, qui est l'utilisation des TGV, où on a transformé des rames de TGV en véritable réanimation, donc des trains de réanimation, pour transporter des patients vers des destinations plus lointaines, mais avec un volume extrêmement important.
À chaque fois qu'une évacuation est envisagée, les médecins demandent bien évidemment l'autorisation de la famille. Ce sont des patients qui sont placés sous respirateur artificiel, mais des patients stables. Il n'est pas question de commencer à pratiquer des gestes médicaux importants pendant le transport. La plupart des évacuations se fera vers l'ouest et surtout le sud-ouest de la France, où l'impact de l'épidémie est moins fort. Et l'objectif du gouvernement serait d'évacuer 20% des patients d'Île-de-France, c'est-à-dire environ 200 personnes.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Jean Castex a constaté par lui-même la gravité de la situation. Le Premier ministre s'est rendu cet après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous suivons au jour le jour cette situation pour nous tenir prêts à prendre les mesures que celle-ci appelle, a déclaré le chef du gouvernement, alors que nous venons de franchir la barre des 90 000 morts dus au Covid. Jean Castex a par ailleurs annoncé un nouveau record positif, celui-là. Plus de 300 000 Français ont reçu une injection aujourd'hui. La campagne s'accélère, tant mieux. Mais depuis hier, un doute s'est installé au sujet du vaccin AstraZeneca. Il y a eu tout d'abord ces quatre pays européens qui ont suspendu provisoirement les injections avec ce sérum, motif invoqué de rares cas de caillots sanguins. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Agence européenne des médicaments annonce que l'AstraZeneca peut provoquer des allergies sévères. Virginie Salmen, éclairez-nous, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Eh bien, pas vraiment. C'est peut-être plutôt un effet pervers de la transparence à outrance sur ces vaccins. Pour les médecins spécialistes, ces allergies sévères ne sont pas surprenantes. Beaucoup de sérums induisent ce type de réaction. C'est aussi le cas du vaccin Pfizer, nous explique le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, le professeur Jean-Daniel Lelièvre.
Il y a des allergies sévères avec le vaccin Pfizer, on le savait. On se doutait qu'il pourrait y en avoir avec le vaccin AstraZeneca. Et c'est la même chose avec tous les vaccins. Après, c'est la fréquence de ces allergies qui reste très peu fréquente. Pour ce qui est des risques de thrombose, si vous regardez les données de l'Agence nationale du médicament, la ANSM, et des rapports réguliers qui sont faits sur la ANSM, vous verrez que ces phénomènes de thrombose ont été également rapportés chez des gens qui avaient pu recevoir le vaccin Pfizer avec une fréquence qui est exactement la même.
D'ailleurs, il n'y a aucun lien établi entre le vaccin et la survenue de ces thromboses. Vu le nombre de personnes vaccinées, 5 millions en Europe, 30 thromboses dont un mort, ce sont des chiffres même en dessous des moyennes habituelles. Pour le professeur Lelièvre, les décisions des pays comme le Danemark, la Norvège, l'Islande et la Bulgarie de suspendre provisoirement la vaccination avec le sérum AstraZeneca est une erreur qui pourrait coûter plus cher en victimes du Covid.
Virginie Salmen. Et puis c'est officiel, nous avons un quatrième vaccin contre le Covid. La Haute Autorité de Santé a validé le sérum Johnson & Johnson qui ne nécessite qu'une seule injection. Et voilà pourquoi la HAS recommande de l'utiliser en priorité dans les zones où l'épidémie est particulièrement active. Épidémie qui, depuis un an, contamine aussi les finances publiques. Chômage partiel, exonération de charges, aide en tout genre. Les comptes de l'État sont dans le rouge vif. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » du président Macron. Une dépense sans compter qui est en sursis. L'exécutif veut y mettre fin cette année. Alors pas brutalement, mais en douceur, petit à petit. Et la question va d'ailleurs être abordée lundi par l'exécutif, Louis Dragnel.
Oui, absolument. Un conseiller du Premier ministre me l'a dit clairement ce matin. On travaille au débranchement progressif des aides. Avec la vaccination qui doit progresser, l'exécutif estime que la situation sanitaire devrait s'améliorer au printemps et donc, mécaniquement, il fait le pari que l'économie repartira. Et la logique du gouvernement, c'est que si l'économie repart, eh bien se pose la question du maintien du quoi qu'il en coûte. Alors attention, le sujet est extrêmement sensible, voire explosif. Le système d'aide bénéficie aujourd'hui à des millions de Français et permet d'amortir la crise économique et sociale. Et il ne vous a pas échappé qu'il y a une présidentielle l'an prochain et évidemment le calendrier de désengagement de l'État aura un impact politique fort. Mais ce qui est intéressant, pour la première fois, le gouvernement reconnaît travailler sur un calendrier et un dosage pour sortir du quoi qu'il en coûte. Enfin, dernière information, le Premier ministre qui recevra lundi prochain les partenaires sociaux à Matignon a en tête d'obtenir avec eux un accord de méthode pour y parvenir.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. L'Italie se confine à nouveau. Le gouvernement de Mario Draghi a annoncé ce soir la fermeture des écoles, bars et restaurants dans de très nombreuses régions du pays à partir de lundi. L'Italie qui vient de passer la barre des 100 000 morts dues au Covid voit l'épidémie repartir en flèche.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Gérald Darmanin est depuis 14 heures dans le bureau d'une juge d'instruction au palais de justice de Paris. Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur est confronté à la femme qui l'accuse de viol et de harcèlement sexuel. Elle affirme que Gérald Darmanin lui aurait demandé des relations sexuelles pour intercéder en sa faveur dans une affaire judiciaire, Guillaume Bier.
Oui, c'est ce que dénonce la plaignante. Tout cela remonte à 2009. À l'époque, cette ancienne militante UMP et ex-call girl rencontre Gérald Darmanin, à qui elle demande de l'aide pour faire réviser une condamnation. C'est sur la suite que leurs versions s'opposent. La jeune femme affirme que quelques jours plus tard, dans une chambre d'hôtel, elle s'est sentie obligée d'avoir une relation sexuelle pour obtenir l'aide qu'elle souhaitait, alors que Gérald Darmanin lui parle d'une relation consentie, sans aucune contrainte ni contrepartie. Alors cette affaire a déjà été classée sans suite par le passé, mais elle a été relancée l'an dernier. Elle est désormais entre les mains de deux juges d'instruction. Ils ont déjà entendu séparément les protagonistes. Gérald Darmanin, qui clame son innocence, n'est pas mis en examen dans ce dossier. Il est sous le statut de témoin assisté. Et comme ses déclarations contredisent celles de la plaignante sur plusieurs points, eh bien, c'est classique dans ce type d'affaires. Les juges procèdent à une confrontation. Confrontation qui pourrait être l'une des dernières étapes de cette instruction avant que les magistrats ne bouclent le dossier.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. La justice administrative donnerait à la mairie de Lyon, les menus sans viande servis en ce moment dans les cantines ne sont pas contraires aux règles nutritionnelles. Des parents d'élèves et des agriculteurs avaient saisi la justice après l'annonce du maire écologiste. Grosse frayeur, ce matin à Metz, un collégien de 15 ans a menacé une professeure avec un couteau. Personne n'a été blessé, heureusement, et l'adolescent a été placé en garde à vue, Mélina Fachin.
Oui, il est un peu plus de 10 heures ce matin lorsque ce collégien de 15 ans, scolarisé en 3e, menace sa professeure de mathématiques armée d'un couteau. L'enseignante et son élève se trouvaient alors seuls dans une salle de classe et tout serait parti d'une discussion autour des mauvaises notes du garçon, comme l'explique Jean-Michel Huard, recteur de l'Académie de Nancy-Metz.
Il y avait une discussion sur un sujet scolaire. C'était un élève qui, manifestement, avait des difficultés scolaires. Le professeur indiquait à l'élève qu'il allait voir sa famille. Et voilà, c'est à ce moment-là que ça a dérapé.
L'enseignante arrive à s'enfuir, prévient immédiatement la direction qui appelle la police. Au même moment, il semble que l'adolescent compose lui aussi le 17 pour se dénoncer. Aucun autre élève n'a assisté à la scène. Les cours ont été brièvement interrompus, mais tout est vite rentré dans l'ordre. Élise, collégienne, est très étonnée par l'attitude de son camarade qui venait d'arriver dans cet établissement il y a un mois à peine.
Ça me surprend. Ça va, il avait l'air gentil, enfin... Non, il avait l'air drôle, il restait avec ses amis, il était plutôt discret, enfin ça allait.
Le garçon de 15 ans est toujours en garde à vue ce soir.
Mélina Fachin, à Metz pour Europe 1. Aux États-Unis, la famille de George Floyd va recevoir 27 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir trouvé un accord avec la mairie de Minneapolis. C'est dans cette ville que l'Afro-Américain avait été tué en mai dernier lors de son arrestation par 4 policiers. Le procès de l'un d'eux s'est ouvert mardi. Un an après l'esclandre lié au sacre de Roman Polanski, la 46e cérémonie des Césars s'est ouverte il y a un peu plus d'une heure maintenant, dans un contexte forcément très particulier, crise sanitaire oblige. Cela fait 235 jours en cumulé que les salles sont fermées et ça, les artistes ne manquent pas de le faire remarquer, Mathieu Charrier.
Ah oui, c'est sûr qu'on assiste à une cérémonie très politique à la fois dans les discours et dans les prix. Dans les discours d'abord, effectivement, Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, a évidemment regretté en ouverture la fermeture des cinémas alors que les églises et les centres commerciaux notamment restaient ouverts. Elle a d'ailleurs moqué Roselyne Bachelot qui pendant ce temps-là, a-t-elle expliqué, sort un livre intitulé « Ma vie en rose ». Puis Roche Dizem, le président de cette cérémonie, lui a pointé le pas. On s'était quitté un peu fâché l'an dernier, sans s'embrasser, si on avait su. Isabelle Huppert, venue remettre le César de la meilleure, du meilleur espoir, a tout résumé. Il faut rouvrir les salles. Voilà, ensuite les prix ont commencé donc à être décernés. Et là encore, devant une salle très restreinte et masquée, c'est un palmarès engagé qui se dessine. Premier César, espoir féminin, pour Fatia Youssouf dans Mignonne, ce film sur l'hypersexualisation des petites filles qui a créé la polémique, notamment lors de sa sortie aux États-Unis. Espoir masculin, Jean-Pascal Zadi, pour Tout simplement noir, sur un homme acteur raté qui veut monter une marche des fiertés noires. Et puis meilleur premier film pour Deux, de Filippo Meneghetti, film sur la difficulté du coming out chez les personnes âgées. C'est d'ailleurs ce film qui va représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà, donc cette cérémonie tient pour le moment ses promesses. À l'instant vient d'être décerné le César des lycéens, vous savez, c'est une première sur le modèle du Goncourt, avec 1500 lycéens qui ont voté. C'est le film Adieu les cons d'Albert Dupontel qui a été primé. Albert Dupontel qui ne vient jamais au César et qui n'était donc pas là pour recevoir sa récompense.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1. Vous, en revanche, vous serez là demain à partir de 14h pour votre émission Clap. Vous reviendrez sur l'histoire politique des Césars qui écrit donc ce soir un nouveau chapitre. Notez d'ailleurs qu'une vingtaine de cinémas prévoient d'ouvrir ce week-end. Action symbolique pour protester encore une fois contre la fermeture des salles. On passe au foot, 29e journée de Ligue 1 et ce match que l'on suit ce soir sur Europe 1, le Stade de Reims face à l'Olympique Lyonnais, match crucial pour les Rodaniens dans la course au titre et que vous suivez pour nous, Damien Ardoy. Est-ce que les Lyonnais sont toujours menés ?
Eh oui, 57 minutes de jeu et la mauvaise opération pour le moment en haut de tableau, vous l'avez dit, et pour Lyon qui est donc mené 1-0 malgré un début de match intéressant. Les Gaunes se sont éteints avant de laisser les Rémois se montrer les plus dangereux et finalement d'ouvrir le score sur une très belle reprise de Cafaro à la demi-heure de jeu. Et c'est plutôt logique pour le moment. Les joueurs lyonnais vont devoir hausser leur niveau de jeu s'ils ne veulent pas rentrer bredouille de champagne. Alors pour tenter de changer la donne, Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais, a procédé à 3 changements à la pause. Cacré, Cornet et Kadewere sont entrés en jeu. Ça va un peu mieux pour Lyon, mais ce n'est pas encore suffisant car Reims tient bon en défense, notamment grâce à son gardien de but serbe Rajkovic. 1-0 pour Reims, 58e minute de jeu au stade Auguste Delaune face à Lyon.
Damien Ardoy en direct de Reims pour Europe 1. Prochain point dans quelques minutes à la fin de cette édition. Ça joue également pour l'équipe de France masculine de handball. Les Bleus ont débuté ce soir leur tournoi de qualification olympique. Ils joue en ce moment face à la Croatie. Et pour l'heure, ils sont menés 23 à 21, 45e minute de jeu. Les Français affronteront demain la Tunisie, puis le Portugal dimanche. Objectif, prendre l'une des deux premières places pour obtenir un ticket pour les Jeux de Tokyo cet été. Enfin, en tennis, Pierre Hugerbert a créé l'exploit ce soir. Le 93e joueur mondial a battu le 5e, le grec Tsitsipas. Victoire en 5-7 en quart de finale du tournoi ATP de Marseille. On termine avec la météo. Anissa Haddadi, une nouvelle perturbation arrive demain.
Oui Julien, et c'est une perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays toute la journée demain. Alors en début de journée, nous aurons des pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne et la Normandie, de la pluie soutenue et du vent qui souffle fort. 110 km/h sur les côtes de la Manche, 90 km/h dans les terres, par exemple en région parisienne ou encore jusqu'au Grand Est. Dans l'après-midi, cette perturbation, elle avance assez rapidement. Elle gagne les régions situées entre la Gironde et l'Alsace, avec là aussi des vents forts, 90 km/h par exemple sur l'Auvergne. Sur les Vosges, l'Auvergne et les Alpes, nous aurons de la neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Dans le sud, de l'Occitanie jusqu'à la Côte d'Azur, finalement, il n'y a que là que le temps sera sec avec un ciel ensoleillé le matin parce que ça se couvre dans l'après-midi. Les températures, elles sont fraîches le matin, 1 à 9 degrés, 1 degré pour Valence, 4 à Lyon et Toulouse, 6 degrés pour Lille et Cherbourg, 7 à Paris et 9 à Bordeaux. Dans l'après-midi, c'est stationnaire, ça ne bouge pas, c'est comme aujourd'hui avec 9 degrés pour Aurillac, 10 à Lille et Dijon, 11 à Nevers et Rennes, 12 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 15 à Lyon, 16 à Marseille et la maximale est prévue pour la Côte d'Azur avec 19 degrés à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com, suivi de l'interview écho d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30,
Julien Pierce. 22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine la semaine sur un nouveau record de l'indice Dow Jones.
Oui, oui, Wall Street continue de battre des records après l'adoption du plan de relance massif de 1900 milliards de dollars de Joe Biden. Le Dow Jones plus 0,9%, effectivement, c'est un nouveau sommet, nouveau record, 32 778 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, en revanche, perd 0,59%, 13 320 points. Le schéma reste donc le même, avec une remontée des taux à long terme, des arbitrages favorables aux valeurs industrielles. Boeing grimpe de 6,8% et remonte à 269 dollars. General Electric plus 2%. L'automobile en nette hausse. General Motors plus 5%. Ford plus 4,5%. En revanche, les valeurs de technologie sont toujours discutées. Apple repère 0,8%, Microsoft moins 0,6%, Facebook moins 2%, Tesla perd 0,8%, 693 dollars, Amazon est en baisse de 0,7% avec Netflix qui perd 1%. Le pétrole revient aussi en arrière, légèrement. On reste quand même très ferme sur le baril. À 65,60 dollars le WTI. Exxon, d'ailleurs, gagne 1% ce soir à 62 dollars. L'euro reste sous les 1,20. On est à 1,1960 face au billet vert.
À la Bourse de Paris, le CAC 40 a aligné une cinquième séance de hausse consécutive.
Ça continue, oui, en progression de 0,21%. Le CAC à 6046 points, donc au plus haut depuis plus d'un an. Sur la semaine, la hausse dépasse quand même les 4% avec l'aide des records à Wall Street, avec les largesses de la Banque Centrale Européenne aussi, ça s'est confirmé hier. Du coup, les valeurs bancaires restent très fermes. BNP, Société Générale, Crédit Agricole en hausse d'1 à 2%. Et puis les valeurs industrielles poursuivent leur remontée. SPI est à la hausse de 4%. Bouygues encore plus 1,5%. Saint-Gobain plus 1,5% aussi. Colas plus 1%. Et puis la spéculation reste très vive sur le groupe M6 plus 6,9%. 19,28 €. Alors que les prétendants au rachat du groupe Média M6 se bousculent avec Vivendi, TF1, mais aussi Iliad, le groupe Télécom qui détient Free et qui s'intéresse donc de près au dossier M6 en hausse ce soir de 6,9%.
Exception du jour, le titre Essilor qui n'a pas profité de la bonne forme actuelle du CAC 40.
Oui, c'est la petite déception du jour. -1% Essilor Luxottica à 139,75 €. Le groupe lunetier a publié un chiffre d'affaires en baisse de 17% sur l'exercice écoulé, 14,4 milliards d'euros. Les confinements successifs ont pesé sur l'activité du groupe, surtout au premier semestre. Le résultat revient au final à 788 millions d'euros. Et donc le titre Essilor en baisse ce soir d'1%. Les autres places financières sont en hausse. Bruxelles monte de 0,58%. Madrid plus 0,6%. Londres plus 0,36%. Et donc le CAC 40 encore en hausse, plus 0,21%. 6046 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à lundi. 22h21 sur Europe. On passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Bernard Gagné.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de PwC pour la France et le Maghreb. PwC, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil au monde. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous avez publié ce matin une grande enquête sur le moral, d'une certaine manière. On va le résumer ainsi, des grands dirigeants de la planète. Ce qui est très intéressant et ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a un vrai espoir. Comment on pourrait dire ? La confiance est en train de revenir. 3 dirigeants sur 4 prévoient dans le monde un retour à la croissance en 2021.
Bah écoutez, pour moi, c'est un peu l'année tant attendue du rebond. Une année aussi de tous les défis, me semble-t-il, et peut-être légèrement aussi certains paradoxes qui parfois sont peut-être de l'ordre du déni, mais on pourra en parler ensuite.
Oui, alors on va peut-être regarder aussi du côté français, parce que là il y a un petit particularisme. La confiance est là hein, aussi quand même, mais il y a des menaces qui sont pointées par les patrons français. Quelles sont ces menaces ? Le populisme notamment. Ça c'est une vraie inquiétude pour l'avenir de la France ?
Alors oui, effectivement, il y a deux menaces qui sont très spécifiques à la France, qui existent au niveau mondial, mais pas au même niveau. C'est le populisme, vous l'avez dit, et la désinformation. En fait, on a le sentiment que les patrons français vivent dans un monde un peu particulier, un moment particulier peut-être, où justement ces enjeux qui font l'actualité permanente montrent à combien notre société peut donner le sentiment d'être fracturée. Et c'est très différent des autres pays, sachant que souvent nos patrons en France, et on le remarque dans cette étude qui dure depuis 24 ans, que le pessimisme est plus fort en France que dans d'autres pays.
Et on sait que c'est souvent un élément bloquant justement notre croissance en France. Justement, si on regarde à nouveau au niveau mondial cet optimisme, il est très prononcé en Amérique du Nord, notamment parce qu'il y a le plan de relance aux États-Unis. On a vraiment l'impression que du côté américain, on est très très confiant.
Alors, oui, bien sûr, parce que notre étude, nous l'avons faite après que les vaccins aient confirmé leur capacité à agir, après le Brexit et après les élections américaines. Donc, effectivement, les patrons prennent en compte le plan Biden, même s'il n'a pas été voté à cette époque-là. 1 900 milliards, c'est considérable, ils le savaient. Et donc, il y a un côté bullish, comme dirait un Américain, sur la capacité à repartir l'économie américaine, qui a une flexibilité, on le sait, extrêmement importante. Et c'est ça qui, à mon sens, porte les patrons vers l'avenir aux États-Unis.
Oui,
et
puis c'est quand même important de dire que c'est le plus haut niveau d'optimisme jamais enregistré depuis l'introduction de cette question dans votre enquête en 2012.
Ah, nous n'avons jamais vu ça. On a pu avoir des 60%, mais des 76% au niveau mondial, c'est absolument considérable. Et moi, j'analyse ça d'une façon très simple. C'est qu'en fait, tous les patrons ont vu que dans les sorties de confinement successifs, le rebond de la consommation a été très important. Il y a un vrai besoin de retour à la normale des consommateurs. Et donc, dès qu'on va rouvrir dans une économie qui est quand même bloquée administrativement, parce que c'est ça qui se passe, il y aura un effet rebond colossal. Et je pense que c'est ça qui crée cet optimisme très, très fort.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un énorme rebond américain, même mieux qu'en Chine, d'une certaine manière.
Disons que effectivement, il y a plus de rebonds aux États-Unis qu'en Chine, parce que finalement en Chine, l'impact de la crise a été beaucoup plus court, beaucoup moins important en réalité, donc l'effet rebond est moins important.
Il y a aussi un point qui est intéressant dans votre étude, toujours au niveau mondial, c'est cette inquiétude des cyberattaques. On en parle beaucoup là en France, hein, on a eu plusieurs cas notamment contre des hôpitaux. On voit bien que du côté des patrons, c'est l'un des principaux risques aujourd'hui pour la santé financière d'une entreprise.
Alors, effectivement, c'est le principal risque après les risques pandémiques qui apparaissent, alors qu'on n'avait pas ça avant dans nos études, mais parce que la pandémie va rester, je pense que ça, c'est un point aussi important. Dans les têtes des patrons, les pandémies resteront pour longtemps, celles que nous vivons et peut-être d'autres demain. Et je dirais que le deuxième risque pandémique, c'est la cyber, et je pense que c'est ça qu'ils mettent en avant, avec un paradoxe, là aussi peut-être un déni, c'est que, justement, 47% d'entre eux qui regardent ça comme un risque majeur, mais... seulement 30% considèrent investir à long terme sur la cyber dans les années qui viennent. Et donc, il y a un décalage. Savent-ils réagir? Savent-ils prendre le sujet? Ont-ils tout à fait les moyens dans la crise de mettre de l'argent là-dessus? C'est probablement le décalage qu'on constate.
Il y a aussi un énorme décalage que l'on constate sur la question du changement climatique. Et là, moi, à la lecture de votre étude, j'ai été quand même très interloqué, puisque beaucoup de vos patrons disent que ce risque n'est toujours pas considéré comme urgent, notamment alors que la COP26 doit bientôt avoir lieu.
Je pense qu'il y a deux éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que le pourcentage mondial... prend en compte évidemment l'Asie ou d'autres pays du monde où la conscience climatique n'est pas la même qu'en Europe et particulièrement en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les patrons, entre la conscience du risque climatique et les moyens qu'ils mettent
même en
France,
matière
de réponse...
Dit, selon votre sondage, même en France, j'en dirais seulement 20% des dirigeants se disent extrêmement inquiets par le changement climatique.
Oui, mais, donc je suis d'accord sur le fait que le niveau de conscience, il progresse, mais il reste encore faible par rapport aux autres risques. Ils ont d'autres enjeux que le risque climatique. Les patrons, il faut bien l'avoir en tête. Et leur taux de réponse au risque climatique reste là aussi faible. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de déni. Il y a ça, certainement, au niveau de ce sujet, une prise de conscience qui fait que, en fait, le risque étant semblant lointain, est pas mesurable. La réactivité à ce sujet reste encore faible.
Oui, même mais si au point que 60% des dirigeants mondiaux disent ne pas tenir compte des risques climatiques dans leur stratégie de gestion des risques. Alors, c'est la phrase que j'ai sortie de votre étude, hein, mais c'est impressionnant.
Oui, c'est très impressionnant et je pense que la prise de conscience au niveau de la gouvernance et des directions générales doit être beaucoup plus forte. C'est ce que nous disons, nous, au niveau international chez PwC et c'est vraiment un travail considérable encore à mener.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Bernard Gagné, qui est le président de PwC pour la France et le Maghreb. PwC, je précise, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil au monde. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et vous nous parlerez bricolage avec votre invité, le patron de Leroy Merlin.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et retourner au stade Auguste Delaune où Reims est toujours en train de mener face à l'Olympique Lyonnais. A tout de suite. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Gauche, l'union c'est maintenant, titre Libération. Si les écolos, insoumis, communistes et socialistes sont disposés localement à sceller des alliances pour les régionales comme dans les Hauts-de-France, on vous en parlait hier, ils restent en revanche réticents à s'entendre au niveau national et pourtant à un an des présidentielles et du duel annoncé Macron-Le Pen, il y a urgence, écrit Libé. L'urgence, c'est aussi le thème de l'édito de l'Alsace. L'urgence sanitaire en Île-de-France et le pari risqué du président qui refuse d'appliquer à la région parisienne le même traitement qu'il réserve aux Alpes-Maritimes ou au Pas-de-Calais. Pour eux, le confinement le week-end n'est pas invivable, mais il le serait pour les habitants de la région parisienne. Restons sérieux, assène Laurent Baudin de l'Alsace.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Des unes du lendemain un peu raccourcies car il y a du foot Reims-Lyon et pour l'heure toujours avantage au Rémois Damien Ardoy.
Oui, 73e minute de jeu, toujours 1-0 pour Reims grâce au but de Cafaro et toujours le même schéma depuis la reprise en seconde mi-temps, à savoir des Lyonnais qui ont la maîtrise du ballon, qui se créent de bonnes situations, mais des Lyonnais qui manquent de précision dans le dernier geste et lorsqu'ils arrivent à cadrer leur tentative, c'est Rajkovic, le gardien Rémois, qui sort la parade. Le souci est que Lyon n'a pas trop le choix. Il faut revenir au score pour ne pas lâcher trop de points dans la course au titre. Il reste un peu plus d'un quart d'heure dans cette rencontre et toujours 1-0 pour Reims, donc face à Lyon au stade Auguste Delaune.
Merci beaucoup Damien Ardoy en direct de Reims pour Europe 1. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir à vous Julien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement, on vous attend dans une demi-heure pour les prochaines infos.
A tout de suite.